Pourquoi notre microbiote intestinal fait-il tant parler? Pourquoi est-il l'enjeu de santé du 21e siècle et comment agir dessus? Julien Scanzi va tout nous expliquer. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42. J'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Julien Scanzi, hépato-gastro-entérologue au CHU de Clermont-Ferrand et auteur d'un livre passionnant, incroyable microbiote. On parle beaucoup de l'importance du microbiote intestinal car les chercheurs comprennent de plus en plus de choses sur son fonctionnement, son impact sur tout notre corps. On pense même qu'il pourrait agir sur notre envie de faire du sport et sur nos performances et comment finalement des équipes sportives pourraient peut-être l'utiliser et essayer d'agir dessus pour améliorer les performances des sportifs. Julien Scanzi nous explique ce qu'est le microbiote, pourquoi il est au cœur de notre santé, le lien qu'il a avec le reste de notre corps et notamment notre cerveau. Et il nous explique aussi pourquoi nous le détruisons de la même manière que nous détruisons notre planète. Car vous allez vous rendre compte que tout est lié et cet épisode permet de rappeler une fois de plus les dangers du trop de sucre et des aliments ultra transformés. Julien Scanzi nous explique plutôt quels sont les aliments à consommer pour agir sur notre microbiote. Il nous met en garde aussi sur l'impact des différentes formes de stress sur le microbiote, du manque de sommeil, de l'importance aussi des premiers mois de vie pour le microbiote de nos enfants. Et Julien Scanzi nous explique aussi pourquoi cette connaissance du microbiote est un enjeu de santé pour bien vieillir et bien soigner et pourquoi la transplantation fécale pourrait changer la médecine dans les années qui viennent. C'est un sujet passionnant et je pense que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses dans cet épisode. Allez, c'est parti! Bonjour Julien.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Eh ben, en pleine forme.
Alors, merci. Je suis très très heureux de te recevoir dans le podcast. Alors, faut le dire, t'es un peu le local de l'étape, hein, parce qu'on est, t'es bien à Clermont là.
Oui, exactement. Ouais. Juste à côté, à Beaumont.
Ouais, à Beaumont. Moi, je suis à Cournon. Tu vois, on a, allez, à vol de, en vélo, je suis à 10 minutes. Je suis à 9 km, 8 km, suivant si je prends un raccourci. Mais c'est pas pour parler de tourisme local ou quoi que ce soit. Vraiment. J'ai sous la main ton livre, Incroyable microbiote, qui est un bouquin que je trouve, alors vraiment, déjà, en plus, alors, je dois te dire un truc. Il a une super couverture. Hein. Vraiment.
Merci.
En plus, j'ai piqué l'exemplaire de ma femme et l'exemplaire de ma femme, il est dédicacé. Donc, tu vois. Et en plus, il y a des jolis dessins. La mise en page est agréable, etc. Donc, je dois le dire déjà parce que des fois, quand après, tu vas présenter un peu qui tu es, ce que tu fais, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, c'est un peu compliqué à lire. Et pas du tout. Vraiment pas du tout.
C'était le but, hein. Je voulais. Alors, c'est difficile de juger la qualité du travail qu'on fait, de ce qu'on va écrire, etc. Donc ça, j'ai les retours petit à petit. Mais je voulais avant tout que mon livre il soit joli, qu'il donne envie d'être pris dans les mains. Une fois dans les mains, qu'on a envie de le feuilleter. Une fois feuilleté, qu'on a envie de l'acheter. Donc c'est déjà un premier point. Et merci de ton retour. C'était un peu un des objectifs du livre.
Oui, puis il y a même des dessins dedans, il y a des jolis dessins. C'est toi qui les as fait, des dessins ?
Non, pas du tout. C'est une illustratrice qui s'appelle Alice Varocco, qui est toulousaine, et qui m'a fait ces très jolis dessins et qui participe vraiment, du coup, beaucoup à l'intérêt du livre et au final, aux possibilités de faire comprendre certains concepts, etc. C'est vrai que des fois, les illustrations parlent d'elles-mêmes, sont suffisantes et permettent également de mettre un petit peu d'humour, ce qui était aussi quelque chose d'important pour moi dans ce livre.
Il y en a un qui me fait beaucoup rire, c'est celui avec encore des haricots, là, 114, avec les proutes, etc. Mais on en parlera après, plus tard. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter.
Donc, je m'appelle Julien Scanzi, je suis gastro-entérologue depuis un peu plus d'une dizaine d'années, effectivement, dans la région clermontoise. Je travaille au CHU Estin à Clermont-Ferrand et à l'hôpital de Thiers, qui est pas très très loin. Et je m'intéresse bien sûr à toutes les pathologies digestives, etc., qui sont bien sûr le cœur de mon métier. Mais depuis une dizaine d'années, je m'intéresse particulièrement à ce qu'on appelle le microbiote intestinal et ce dont on va parler un petit peu là pendant les instants qui suivent. Donc moi, je suis rentré dans cette thématique du microbiote intestinal par le cas le plus extrême de modulation du microbiote qui s'appelle la transplantation fécale, c'est-à-dire la possibilité de soigner quelqu'un en transférant les selles de quelqu'un qui va bien, du coup, à quelqu'un de malade. Et donc, c'est en me rendant compte des possibilités thérapeutiques qu'avait le microbiote, je me suis intéressé beaucoup plus en profondeur sur ce qu'était le microbiote, comment essayer de le préserver, le moduler, etc.
Alors, c'est intéressant cette technique. Moi, j'ai vu un documentaire sur le sujet, notamment avec Alors, c'est l'un des pères de la technique, il est français, je crois, en plus, hein, sur le sujet, non ?
Alors, il n'y a pas forcément, en fait, alors il n'y a pas de vrai père de la technique, sachant que les premiers scientifiques qui en ont parlé, en fait, on a retrouvé des écrits chinois qui dataient du 4e siècle où ils parlaient déjà de cette technique. Donc, en fait, c'est une technique qui est utilisée depuis probablement la nuit des temps et qui a été remise au goût du jour, voilà, en quelque sorte, depuis une dizaine d'années suite à une vraie étude faite en bonne et due forme avec plusieurs dizaines de patients, etc. Et ça, l'étude en question, c'est une étude hollandaise. Mais effectivement, en France, on est quand même dans des, on est quand même bien équipé en scientifiques qui pratiquent cette et médecins qui pratiquent cette technique et qui l'étudient.
Tu peux expliquer le principe pour ceux qui le connaissent pas?
Alors le principe, bah, c'est globalement, on en parlera peut-être un petit peu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre santé est globalement corrélée, au moins en partie, à l'état de notre microbiote intestinal. Donc, on reparlera un petit peu de ce que c'est que notre microbiote intestinal, et que globalement, il y a en tout cas des maladies qui sont liées à un dysfonctionnement de notre microbiote, un déséquilibre du microbiote, un appauvrissement, une perte de certaines bactéries, etc., qui entraînent certaines maladies. Et en fait, il y a une maladie en question notamment, c'est une infection à une bactérie, et souvent méchante, qu'on appelle Clostridium difficile. Et cette bactérie-là, elle prolifère quand il y a un problème du microbiote intestinal qui s'est appauvri. Et le meilleur moyen de s'en sortir, de guérir de cette infection, ben, plutôt que de traiter la bactérie avec des nouveaux antibiotiques, c'est de rétablir un équilibre microbien, c'est-à-dire faire en sorte que cette bactérie. Et c'est du coup une thérapie, un traitement qu'on appelle transplantation de microbiote fécal, qui consiste à prendre les selles d'un individu sain, et donc son microbiote, et à le transférer dans le système digestif du patient malade. Ce qui est important, c'est que cette technique-là, elle est utilisée en pratique courante dans nos hôpitaux actuellement, uniquement dans le cadre de cette indication bien précise. Pour tout le reste, et notamment pour traiter les maladies chroniques, etc., c'est à l'heure actuelle uniquement quelque chose de. C'est la recherche clinique, en fait. On ne le ferait pas en pratique courante pour traiter d'autres maladies, et ça, c'est important.
On va venir à ce que c'est le microbiote justement parce que tout le monde en entend parler. Tu dis dans ton livre que ça sera sûrement dans le futur des éléments vraiment importants qu'un médecin dont on discutera avec le médecin, comme là on discute des prises de sang, on discutera de microbiote, etc. On se rend compte en fait qu'il y a beaucoup d'interactions et que on l'a probablement beaucoup négligé. Enfin, comment tu présentes et puis après on ira sur la suite.
Comment je présente le microbiote intestinal? En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, on n'est pas uniquement humain, on est en grande partie microbien. Pourquoi on est microbien? Parce que sur nous et en nous, il y a tout un tas de micro-organismes. Des bactéries, bien sûr, mais également des virus, des parasites, des levures, des champignons, etc. Et en fait, qui cohabitent avec nous. On vit en symbiose avec tout un tas de micro-organismes. Et le principal écosystème microbien qui vit en nous, c'est notre microbiote intestinal. C'est donc l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans nos intestins, plus particulièrement au sein de notre gros intestin, du côlon, puisqu'il y a pas moins de 40 à 50 000 milliards de bactéries dans nos intestins. Donc globalement, il y a à peu près autant de micro-organismes, et notamment de bactéries, que de cellules humaines dans notre organisme. Donc vraiment, nous sommes des êtres hybrides, moitié humains, moitié microbiens. Et ce qui est important pour rester en bonne santé, et ça, de très nombreuses études scientifiques le démontrent chaque jour, c'est de maintenir une symbiose, un fonctionnement harmonieux, une cohabitation qui marche le mieux possible entre notre écosystème microbien et notre organisme humain. Parce que ces micro-organismes, notamment les bactéries, elles ne sont pas là pour rien. Elles nous aident dans le bon fonctionnement de notre organisme au quotidien sans qu'on s'en rende compte. Elles nous aident, par exemple, à digérer les fibres de l'alimentation, à nous protéger par rapport à l'invasion éventuellement d'autres bactéries ou virus pathogènes. Elles nous aident même à métaboliser les médicaments, c'est-à-dire quand on va prendre des médicaments, en fonction du type de notre microbiote intestinal, on va potentiellement avoir une meilleure efficacité du traitement, plus ou moins d'effets secondaires, etc. On sait que énormément de médicaments sont métabolisés par nos bactéries intestinales. Les bactéries peuvent produire également des vitamines, des petites molécules, comme des acides gras à chaîne courte qui peuvent servir comme substrat énergétique pour nos intestins, mais pas seulement. Des neurotransmetteurs qui sont en quelque sorte des messagers chimiques qui vont aller envoyer des messages à d'autres cellules, à des neurones ou et activer d'autres cellules de l'organisme. Donc, ce qui est vraiment très important, c'est que voilà, nous sommes faits de bactéries et d'autres micro-organismes, et pour rester de la meilleure santé possible, il faut vraiment préserver tout ça et respecter cet écosystème microbien. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse depuis pas si longtemps que ça? C'est tout simplement parce qu'il y a il y a 15-20 ans, on n'avait pas encore les outils pour étudier ces micro-organismes-là, pour étudier le microbiote intestinal. Et maintenant, en fait, on a des outils de séquençage haut débit qui étudient l'ADN de nos bactéries intestinales et qui permettent, bien sûr, ben, du coup, de beaucoup mieux l'étudier qu'il y a 20 ans où on avait uniquement, en gros, le microscope et les cultures de bactéries.
J'ai une première question qui était de dire, est-ce que on a chacun, enfin, un microbiote différent, ou est-ce que entre les individus ils se ressemblent, c'est quoi les variations?
Alors, bah, tes deux affirmations sont justes. La première chose, c'est que bon, on n'est pas deux êtres humains à avoir le même microbiote, et même nous-mêmes, au fil de la journée, au fil des jours, etc., notre microbiote change. Il est en permanente évolution en fonction de notre mode de vie, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va faire, des médicaments qu'on va prendre, etc. Et au-delà du fait, beaucoup le comparent à une empreinte digitale parce qu'on a tous un microbiote qui nous est propre, mais au final, cette empreinte digitale, elle est la même. C'est-à-dire que pour allumer ton smartphone aujourd'hui ou pour l'allumer dans 3 mois, ton empreinte digitale va pas changer, alors que notre microbiote intestinal, lui, va être en constante évolution. Et l'autre chose, c'est effectivement, autant on a tous un microbiote intestinal différent, autant des individus qui vivent ensemble, qui cohabitent, qui mangent la même chose, qui vont avoir un mode de vie relativement comparable, vont avoir quand même un microbiote qui va se ressembler globalement à un microbiote relativement proche.
J'avais vu un documentaire qui m'a marqué, mais je suis plus sûr quelle chaîne, peut-être Netflix, qui disait que par rapport à nos ancêtres, on avait sûrement perdu une grosse partie de notre microbiote. C'était la principale destruction sur la planète, c'était celui-là, en fait.
Ouais, bah effectivement, on a l'impression que ces dernières décennies, on n'a pas seulement détruit, appauvri la biodiversité de notre planète, mais on a également appauvri notre biodiversité microbienne, un peu en parallèle et un petit peu à cause des mêmes choses, hein. Ces dernières décennies, on a mangé de plus en plus une alimentation industrielle, de moins en moins de fibres. Alors, l'alimentation industrielle, elle est riche en additifs. On appelle ça des aliments ultra transformés. Ces additifs, la plupart sont toxiques pour notre microbiote intestinal, de plus en plus pauvres en fibres, et on le verra peut-être, mais les fibres alimentaires qu'on trouve dans l'alimentation sont la principale nourriture pour nos bactéries intestinales. Il y a eu également, alors ça n'a pas eu que des côtés négatifs, mais l'apogée de la vaccination, des antibiotiques qui nous ont bien sûr aidés à nous débarrasser de certaines maladies infectieuses. Effectivement, on meurt actuellement beaucoup moins de la tuberculose, voilà, de certaines hépatites ou autres. Mais en contrepartie, avec probablement à un certain moment un excès de consommation d'antibiotiques, en dehors du fait de moins mourir de ces maladies-là, on a également attaqué et détruit une partie de notre microbiote intestinal. Effectivement, certaines études ont montré que des gens qui avaient un mode de vie comparable à celui de nos ancêtres, hors des ancêtres chasseurs-cueilleurs, on va dire, avaient un microbiote beaucoup plus riche et diversifié que le microbiote des personnes occidentales comme nous.
Est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact précis que ça a sur notre mode de vie, sur comment on fonctionne en fait?
Alors c'est très compliqué. Autant on a beaucoup d'études qui montrent des corrélations, c'est-à-dire où on peut explorer le microbiote de telle ou telle population, ou de patients atteints de telle ou telle maladie, etc. Après, essayer d'en comprendre les mécanismes et de savoir qu'est-ce qui a fait que certaines modifications du microbiote ont engendré l'explosion de certaines maladies, le développement de dysfonctionnement de notre organisme, etc. C'est beaucoup plus complexe, et je pense que c'est vraiment un des enjeux de la communauté scientifique de ces prochaines années, c'est d'essayer de mieux comprendre les mécanismes entre une modification du microbiote et une modification, par exemple, sur notre santé, ou en tout cas sur le fonctionnement de notre organisme.
Pour ceux qui ont mangé beaucoup d'alimentation ultra transformée, qui ont pris beaucoup d'antibiotiques dans leur vie, etc., ça se repeuple un microbiote?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que notre microbiote, enfin, on a la chance qu'il soit résilient. Cette résilience, c'est sa capacité à absorber, on va dire, des agressions, des traumatismes, etc., et à revenir après avoir subi une agression, comme par exemple la prise d'antibiotiques, à revenir à son état initial. Ce qu'on appelle la résilience, et heureusement qu'on a ça, c'est-à-dire que bien sûr, au cours de notre vie, on peut être amené à être malade, à prendre des antibiotiques pour telle ou telle infection. Et normalement, si tout se passe bien derrière, notre microbiote intestinal a une capacité à revenir à son état antérieur et du coup à nous ramener vers plutôt une bonne santé. Malheureusement, cette résilience-là, elle est pas toujours complète, c'est-à-dire que le microbiote peut ne pas revenir totalement à son état antérieur. Et surtout, ne pas y revenir du tout, et notamment quand les agressions sont trop intenses ou répétées dans le temps. C'est-à-dire que, ok, une cure d'antibiotiques de 7 jours chez quelqu'un qui va bien, normalement derrière, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, si on multiplie les cures d'antibiotiques, et par exemple, en 2-3 mois, on est amené à prendre 4 fois des antibiotiques, et bien derrière, potentiellement, notre microbiote pourrait ne pas revenir à son état antérieur, et se stabiliser vers un état qu'on dit alternatif, qui sera lui beaucoup moins propice au fait qu'on reste en bonne santé et qui pourrait nous amener plus tard vers des maladies chroniques.
C'est pas très encourageant ton histoire parce que on a tous pris des antibiotiques, des fois un peu rapprochés. Moi, je vois ma fille, quand elle faisait des otites à répétition, je me disais, antibiotiques. Alors après, on dit, est-ce qu'il faut lui donner des probiotiques? Comment on fait pour donner ça? Mais enfin, on se pose des questions quand même là.
Alors oui, bien sûr, l'idée c'est pas non plus de faire peur ni d'avoir un discours culpabilisateur, le tout c'est d'en être conscient, et bien sûr après c'est qu'une histoire de sur-risque, c'est-à-dire qu'on sait que la prise multipliée d'antibiotiques, notamment dans la petite enfance, etc., augmente un petit peu le risque plus tard d'avoir certaines maladies liées à un dysfonctionnement du système immunitaire, c'est le cas par exemple de l'asthme, de certaines allergies, même du diabète, de l'obésité, etc., ou des maladies comme la maladie de Crohn. Ça, on le sait. Par contre, on augmente un petit peu le risque, mais on ne l'augmente pas de façon très significative. C'est-à-dire que même si on passe d'un risque de 1 sur 1000 à un risque de 1 sur 500, on va multiplier par 2 le risque, ce qui peut paraître énorme, mais au final, on n'aura que une chance, en tout cas une probabilité sur 500 de développer la maladie. Donc voilà, il faut vraiment relativiser. On sait que ça augmente certains risques, mais bon, heureusement, on peut encore rester en très bonne santé, même en étant né par césarienne, en ayant pris pas mal d'antibiotiques, en n'ayant pas été allaité et en mangeant quelques fast-food de temps en temps.
Alors pour ceux qui ne savent pas, il faut que tu l'expliques, le coup du né par césarienne quand même, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas ça.
Alors, la naissance par césarienne fait que le bébé qui sort, du coup, n'a pas de contact avec le microbiote vaginal et même le microbiote fécal de la maman. On sait que la nature fait bien les choses et que globalement, c'est pas pour rien si lors d'un accouchement naturel par voie basse, le bébé sort par le vagin et même souvent est potentiellement un peu souillé par les matières fécales de la maman, c'est que du coup, il va en tirer potentiellement un bénéfice. C'est que ça va être les premiers micro-organismes, le premier environnement microbien avec lequel il va être en contact. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à acquérir, à façonner son propre microbiote intestinal, ses propres microbiotes. Alors que le bébé né par césarienne, n'ayant pas accès à ces micro-organismes-là, va être en contact avec le microbiote cutané de la maman, donc la peau de la maman, éventuellement celui du papa, éventuellement d'autres choses de l'environnement. Et on sait que du coup, il va se développer de façon un peu différente sur les premiers mois, même premières années de vie, pendant lesquelles le microbiote sera un peu plus fragile, on va dire. Et cette différence-là, elle va s'estomper, bien sûr. Et à l'âge adulte, normalement, on retrouve plus vraiment de différence entre quelqu'un qui est né par césarienne ou par voie basse. Mais il y a une certaine fragilité dans la petite enfance chez ceux qui sont nés par césarienne et on retrouve un très léger sur-risque, comme je disais, d'asthme, d'allergie et même d'obésité dans l'enfance.
Il y a un âge à quel ça se stabilise, c'est-à-dire qu'on pourrait dire on est adulte du microbiote, je ne sais pas si c'est valable ou pas, à partir d'un certain âge ou pas.
Ouais, tout à fait. Globalement, on a un microbiote qui est considéré comme mature Dans l'enfance, alors après les scientifiques se battent à savoir si c'est plutôt 3, 4, 6 ans, mais globalement, entre 3 et 6 ans, le microbiote est relativement proche du microbiote de l'adulte. Il va continuer d'évoluer un peu, mais très peu. Mais c'est vraiment entre 0 et 2 ans, 0 et 3 ans, où là, il y aura d'énormes développements du microbiote. C'est vraiment, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais on parle souvent de la période des 1000 premiers jours. En fait, c'est une période qui va de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans et qui est une période relativement cruciale où, en fait, chaque élément qui vont venir impacter l'environnement, l'alimentation, les médicaments, etc., vont avoir vraiment potentiellement un impact sur la santé future et même à l'âge adulte. Donc là, on y est effectivement, et c'est probablement que c'est cette période des 1000 premiers jours qui est vraiment cruciale dans le développement du bébé et pour sa santé future. Probablement que c'est aussi lié à l'importance du développement du microbiote intestinal, parce qu'en même temps que se développe le microbiote intestinal, il y a une communication permanente avec le système central, le cerveau, avec le système immunitaire, et tout ça évolue ensemble. Le microbiote intestinal, les neurones, le cerveau, le système immunitaire sur les premières années de vie. Et donc, dès qu'il y a un élément qui va venir perturber un de ces éléments, et notamment le microbiote, ça peut se ressentir du coup sur le reste, sur l'immunité, sur le développement neurologique.
Est-ce que le microbiote peut avoir un impact sur mon moral, sur les émotions que je peux ressentir ou comment mon corps va les traiter, enfin, tu vois, des choses comme ça?
Très probablement, oui. C'est pas pour rien si on parle de deuxième cerveau. Alors, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, la première, c'est quand on parlait des intestins qui étaient notre deuxième cerveau, c'est simplement parce que c'était le deuxième organe après le cerveau à être le plus riche en neurones. Alors, bien loin derrière, le cerveau, c'est 8 milliards de neurones à peu près. L'intestin, c'est plusieurs centaines de millions. Mais pour d'autres choses, le fait qu'effectivement, nos intestins et surtout, en fait, notre microbiote intestinal communiquent en permanence avec notre cerveau, notamment via la sécrétion de ces messagers chimiques qui vont aller activer des neurones et envoyer des informations au cerveau. Et donc, effectivement, il y a de nombreuses études. Alors, la plupart, quand même, faut se méfier, la plupart, sur modèle animal, donc chez la souris, le rat, etc., où vraiment on a montré clairement, une relation entre, l'état du microbiote intestinal et le fonctionnement du cerveau, en termes de capacité, fonctionnel, également sur le stress, l'anxiété, la dépression, et sur même des pathologies neuropsychiatriques comme l'autisme, des pathologies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Il y a des liens qui sont en train d'être étudiés, mais il y a une corrélation qui est certaine entre l'état du microbiote intestinal et le fonctionnement du cerveau ou le développement de pathologies neuropsychiatriques, ça c'est sûr.
C'est pour ça aussi qu'on le place autant au centre de, tu dis, la médecine du 21e siècle. Finalement, l'enjeu pour nous, pour le 21e siècle, c'est de préserver ce microbiote et qu'il soit en pleine santé, quoi.
Bah, tout à fait. C'est-à-dire que vraiment, je pense que ça va être une des révolutions médicales qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'avant, je disais, il y a 20 ans, on n'avait pas conscience qu'on était microbien. Et il y a plein de maladies qu'on n'arrivait pas à expliquer, qu'on avait du mal à traiter. Et maintenant, on se rend compte que certaines maladies sont expliquées au moins en partie par rapport à des choses qui sont passées au niveau de notre microbiote intestinal et qui sont des fois dû à une destruction en partie du microbiote. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire, l'enjeu, hein, de la médecine dans les prochaines années, ça va être essayer de mieux comprendre les mécanismes et essayer surtout d'essayer de moduler le microbiote intestinal, et ben pour se sortir un petit peu de ces maladies-là, de ces nouvelles maladies que notre mode de vie occidental a un petit peu créé. On parlait de maladies du système immunitaire, de la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, on parle d'autisme, des maladies probablement qui n'existaient pas ou très peu il y a quelques dizaines d'années, qui sont liées probablement en partie à notre mode de vie. Et maintenant, l'enjeu, ça va être essayer de réparer un peu les dégâts et de voir comment, en modulant notre microbiote intestinal, on va être capable de traiter ces maladies-là, parfois de les guérir, même si pour l'instant on n'en est pas là. Et avant, bien sûr, d'être malade et d'essayer de les guérir, c'est d'éviter d'être malade. Et donc, quand on est en bonne santé et qu'on a probablement un microbiote intestinal qui est encore riche, diversifié, etc., propice plutôt à une bonne santé et à un bon vieillissement, mais essayer surtout de le préserver. Parce que, une fois que le microbiote s'est appauvri et qu'il n'arrive plus à revenir à son état antérieur, c'est beaucoup plus difficile d'agir dessus et voilà, de faire machine arrière. Donc le mieux, c'est quand même de garder un bon microbiote.
Alors, c'est tellement un enjeu de maintenant que on a été démarchés, on a reçu des messages. Moi, j'ai reçu plein de pubs aussi, tu sais, sur Instagram, avec des sociétés qui nous proposent d'enrichir notre microbiote, qui ont des cachets, des trucs comme ça, etc. Et il faut leur faire confiance. Il faut. On fait comment pour savoir un petit peu ce qui est vrai, ce qui est pas vrai là-dedans, ou est-ce que c'est du un attrape-nigaud, j'ai envie de dire, tu vois?
Alors c'est un peu compliqué de faire la part des choses. Là probablement dans ce que tu évoques, c'est probablement des probiotiques, pas seulement, mais en tout cas les probiotiques qui sont en fait des micro-organismes vivants qu'on va prendre sur une période donnée et qui vont venir pendant cette période-là enrichir notre microbiote intestinal et potentiellement apporter des bénéfices à notre santé puisque les bactéries qu'on va prendre sont censées être bénéfiques et vont participer à améliorer le fonctionnement de notre organisme. Alors là-dedans, on trouve tout et n'importe quoi. Il y a des probiotiques qui ont été bien sûr testés avec des études scientifiques en bonne et due forme qui ont montré une efficacité pour telle ou telle chose. C'est par exemple le cas, et tu l'as évoqué tout à l'heure, de quelqu'un qui prend des antibiotiques qui va potentiellement avoir une destruction de son microbiote intestinal, de la diarrhée, des ballonnements, des troubles digestifs en rapport avec la prise de ces antibiotiques. Il est actuellement conseillé, pendant la prise d'antibiotiques et peut-être un peu après, de prendre également des probiotiques, donc ces fameux micro-organismes bénéfiques pour la santé, pour diminuer le risque d'avoir de la diarrhée liée aux antibiotiques et potentiellement pour limiter un petit peu les dégâts des antibiotiques sur notre microbiote intestinal. Mais après, effectivement, il y a un tel business et il y a un tel marché que du coup, il y a énormément de startups qui se montent, énormément de boîtes qui vendent tel ou tel probiotique, mais pas seulement des probiotiques. Et c'est difficile de faire la part des choses parce que là-dedans, il y a la plupart n'ont jamais été étudiées cliniquement et n'ont jamais montré de bénéfices. C'est pas pour autant qu'il n'y a aucun intérêt ou que ça va être délétère, c'est simplement que moi, en tant que scientifique, je ne peux pas
Ouais.
conseiller à des patients de prendre des choses qui n'ont jamais été testées.
Est-ce que sur le, c'est une question que j'avais. C'est quoi qui va détruire principalement, là, bon, on a parlé des antibiotiques, mais c'est quoi les choses qui peuvent vraiment détruire le microbiote?
Alors franchement, c'est avant tout et probablement de très loin les antibiotiques. Après, ça va être beaucoup de médicaments. Beaucoup de choses qui sont exogènes. Alors après, il faut vraiment se dire que nos micro-organismes, en fait, enfin, c'est la nature, c'est de la biodiversité. Et tout ce qui va ne pas être naturel, on va dire, va potentiellement être délétère. Donc c'est le cas de notre alimentation. Plus on a une alimentation naturelle, saine, avec les légumes du jardin, bio, etc., plus ça va être bénéfique pour notre microbiote. Plus on va aller vers quelque chose d'industriel avec tout un tas d'additifs, des choses où on a potentiellement eu des pesticides, etc., plus ça va être délétère sur notre microbiote intestinal. Alors après, effectivement, dans les choses délétères, c'est les médicaments, c'est l'alimentation ultra transformée avec les additifs alimentaires. Et après, ça va être des choses qu'on ne fait pas. Donc, ça peut être, par exemple, la sédentarité, un mauvais sommeil. Voilà, toutes ces choses-là vont potentiellement être plus délétères, alors qu'un mode de vie, une bonne hygiène de vie, et ça, globalement, on sait tous à peu près ce que c'est, un sommeil suffisant, réparateur, le moins de stress possible au quotidien, une alimentation riche, diversifiée, saine et naturelle, tout ça va être beaucoup plus propice à préserver cet écosystème microbien qui vit en nous.
Ouais, alors c'est fabuleux l'histoire du sommeil, parce que moi j'ai pas idée que le sommeil, manque de sommeil, ça détruit le microbiote.
On ne peut pas dire que ça détruise, mais les études montrent que c'est pareil. Là, encore une fois, c'est de la corrélation. C'est que plus on a un sommeil qui est important, déjà, enfin, moins on a de stress, moins on a meilleur et on va dire le métabolisme de notre organisme. Et ça se retrouve également sur l'état du microbiote. Un meilleur sommeil est plus propice à préserver un bon microbiote. Voilà, c'est une sorte de un manque de sommeil, c'est un stress, hein, c'est un stress pour notre organisme, et c'est également un stress pour tous les micro-organismes qui vivent en nous.
Tu as parlé du stress aussi, donc bon, là on vient d'en reparler. Est-ce que le stress sportif, tu vois, dire je vais avoir une grosse fatigue parce que je me fais je sais pas, je vais faire un marathon, tu vois, par exemple, est-ce que c'est le genre de stress qui peut avoir un impact sur le microbiote?
Oui, et le microbiote peut avoir un impact sur ce genre d'activité physique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a quelques études qui ont montré déjà un lien entre l'activité physique et l'état du microbiote. Et globalement, dans les grandes lignes, une activité physique régulière, parfois intense, est plutôt bénéfique à un bon microbiote, entre guillemets. Et à l'inverse, certains microbiotes sont bénéfiques à des bonnes performances sportives et alors notamment quelques bactéries qui semblent sortir du lot. Après, il y a quand tu parles de stress et d'activité physique, là, on est sur de l'activité physique probablement très intense. Tu parles de marathon, ça peut être les Ironman ou autres. C'est un stress pour l'organisme, c'est potentiellement également un stress pour le microbiote intestinal. Mais globalement, si on est bien entraîné, notre microbiote intestinal va même nous aider à récupérer correctement et normalement devrait être capable, même s'il a été stressé, s'il a subi un stress et en quelque sorte une agression pendant l'effort intense, normalement, s'il est bien entraîné, il va revenir un petit peu à son état antérieur et il n'y aura pas trop de soucis. Par contre, tu sais, toi, en tant que sportif, que une activité physique très intense, potentiellement soutenue, peut mettre à mal plutôt, sans parler du microbiote, mais notre système digestif,
Oui.
puisque en gros, le sang, on a des capacités limitées en sang, en oxygène dans notre organisme, alors que les sportifs ont des plus grandes capacités que les non-sportifs. Mais mine de rien, ces capacités sont limitées et que le sang, pendant l'effort, va aller en priorité au cerveau, hein, bien sûr, et dans les muscles. Et que ce qui va potentiellement faire les frais de ça, c'est les intestins qui, eux, bénéficient en dernier lieu d'irrigation du cerveau, de l'oxygénation. Et donc, potentiellement, c'est pour ça que parfois, dans les sports d'endurance très intenses, il peut y avoir des cas de diarrhée, de douleur au ventre, voire même de diarrhée avec du sang. C'est lié à des altérations, à une souffrance intestinale pendant l'activité.
On avait parlé du cas de l'ischémie avec Vanessa Morales. Je renvoie les auditeurs là-dessus parce que son guide avait failli mourir sur le Kilimandjaro, alors que, parce que, enfin, vraiment un cas qui est incroyable parce qu'il mangeait trop et tout. Il n'a pas digéré les montées. Elle lui a sauvé la vie en mangeant en plus. Elle mange des pastèques pour courir, tu vois, enfin des trucs comme ça. Bon, c'est. Après, enfin, l'anecdote est pas drôle pour le guide, mais elle le sauve, donc tout va bien. Mais c'est vrai on en avait parlé de ce sujet-là, qui est un sujet important, parce que c'est vrai que on est tous dans la course à pied, on a tous eu des retours à la maison, des fois un peu catastrophiques, on a des mal au ventre, etc. Donc ça, c'est pas terrible, quoi.
Non, ça c'est pas terrible. Après, il faut essayer de limiter ça. Mais après, encore une fois, heureusement, on est sur des phénomènes qui sont normalement transitoires et normalement les intestins se réparent très vite de ça. Mais il faut essayer de limiter parce qu'il y a une vraie souffrance.
Ouais. Bon, tiens, il y a un autre truc aussi chez les sportifs, c'est des fois les petites blessures, tu vois, on peut prendre des anti-inflammatoires, des trucs comme ça. Là, j'imagine que c'est pas terrible, hein.
Après, je peux pas dire. Enfin, globalement. Quand même, moins on a à prendre de médicaments, mieux on se porte et mieux nos bactéries intestinales se portent également. Effectivement, les anti-inflammatoires sont pas forcément bénéfiques pour notre microbiote intestinal, ça c'est sûr. Et comme globalement, probablement 80% des médicaments qu'on nous sommes amenés à prendre, c'est sûr. Après, là encore, si c'est occasionnel et surtout si c'est pour une bonne raison, et ben voilà, il y a pas, faut en prendre le moins possible. Mais c'est comme les antibiotiques. Si vraiment on a une infection. Eh ben, peu importe si ça fait des dégâts sur le microbiote, si c'est pour guérir d'une infection bactérienne, bien sûr qu'il faut le prendre.
Tiens, tant qu'on y est dans ces trucs-là, pour les femmes qui nous écoutent, la pilule, ça peut avoir un impact sur le microbiote?
Alors, déjà, enfin, on va revenir sur quasiment tout ce qu'on va ingérer va avoir potentiellement un impact sur le microbiote intestinal. Eh ben, en parlant de pilules, c'est des pilules enfin hormonales, et du coup, les hormones peuvent avoir un impact sur le microbiote intestinal. Le cycle féminin a un impact sur le microbiote. Le
D'accord.
microbiote n'est pas forcément le même. Il évolue également un petit peu en fonction du cycle sur l'effet parfois des hormones. Donc, effectivement, oui, il peut y avoir un rôle. Après, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que ça va modifier sur le microbiote intestinal, mais il y a également, voilà, ça joue forcément.
Non, mais c'est intéressant de voir comment tout influence dessus. On va revenir sur la nutrition parce que, alors, on a beaucoup parlé de l'ultra-transformation, des aliments ultra-transformés. On a reçu Anthony Fardet, on a reçu Vrob qui a fait une BD sur le sujet et tout. Donc, on en a vraiment beaucoup parlé. Je crois que ce sont les épisodes qui ont eu le plus de succès, il faut le dire aussi. Et forcément, on en a parlé au début. L'ultra-transformé, les additifs, tout ce truc-là, là, c'est pas bon pour le microbiote.
Non, clairement. Non, non, non. Il y a eu pas mal d'études, pas mal d'études, notamment sur des additifs qu'on appelle des émulsifiants qu'on trouve dans des gâteaux industriels, dans les crèmes glacées, etc., qui sont censés amener une certaine texture agréable, etc., ou parfois allier les ingrédients entre eux. C'est le cas dans les mayonnaises industrielles également. Et ça, quand on regarde ce que donne l'ajout d'émulsifiants sur des microbiotes intestinaux, alors ça a été montré notamment chez les souris, c'est les résultats sont catastrophiques. Ça détruit une partie des bactéries intestinales. Et il y a même des études qui montrent que la consommation d'aliments ultra transformés était corrélée au risque de développer au cours de notre vie une maladie inflammatoire intestinale comme la maladie de Crohn. Donc maintenant, voilà, il y a des études chez l'homme, de corrélation, des études épidémiologiques qui montrent que voilà, cette alimentation-là, alors bien sûr que de temps en temps, etc., allez, c'est pareil, hein, si c'est transitoire, mais c'est voilà, le fait d'en consommer de façon quotidienne ou régulière, bah, c'est pas du tout bon pour notre microbiote intestinal et donc potentiellement pour notre santé future, clairement.
Anthony Fardet parle beaucoup de la matrice. Je ne sais pas si la structure de l'aliment finalement a un impact ou pas, parce que c'est vrai qu'on disait ce réductionnisme alimentaire, on dit on va prendre des protéines, on va prendre de ça, et puis bon, on va dire c'est bon pour nous, mais finalement ça n'a pas la valeur de l'aliment dans sa globalité. Comme c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, là j'imagine aussi bien sûr que ça a un impact, ça peut être mesuré ou finalement, enfin je sais pas, moi on trouve c'est des barres ou des trucs en poudre, des choses comme ça. Ça a un impact, logiquement. Il y a un moment donné, il faut bien que ça soit traité. Donc, forcément, sur le microbiote, ça peut agir.
Oui, bah tout ce qui, enfin effectivement, tout va avoir un impact sur le microbiote. Alors après, pour revenir, mais ça, je pense que c'est Anthony Fardet qui est le spécialiste de ça. Mais globalement, ce qui est compliqué, c'est en fait, quand on prend un aliment, quand on prend une carotte, ben on va avoir plusieurs vitamines, on va avoir plusieurs éléments nutritifs au sein de cette carotte, on va avoir plusieurs choses qui vont être bénéfiques pour notre organisme. Et c'est pas forcément comparable à la même chose qu'on va fabriquer de façon industrielle, qu'on va retrouver dans des gélules, parce que déjà, on va perdre cet effet matrice qui vous avait expliqué. Et d'autre part, on va réduire le bénéfice nutritionnel d'un aliment à sa richesse en telle vitamine, tel acide gras, telle chose. Et en fait, c'est l'alimentation, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de se nourrir d'aliments variés qui vont nous apporter plein de bonnes choses et de différentes façons. Parce que ça va nourrir notre organisme en nutriments, parce que ça va aller nourrir notre microbiote intestinal. Et ça, c'est notamment les fibres que nous ne sommes pas capables de digérer, que nos bactéries intestinales vont, elles, pouvoir être capables de digérer. En échange, elles vont fermenter, produire d'autres petites molécules comme des acides gras à chaîne courte, etc. Et tout ce qui se passe quand on mange et les bénéfices c'est beaucoup plus complexe que simplement ah tiens, j'ai pris un peu de protéines, j'ai pris un peu de glucides, un peu d'oméga-3, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Je voudrais dire un mot sur le sucre quand même. Est-ce qu'on a, parce que la consommation de sucre et du sucre partout, etc. Là aussi, on n'était pas fait pour consommer du sucre à gogo à une époque, hein. Donc j'imagine que c'est...
Bah, globalement, on consomme probablement au moins 5 fois moins de fibres alimentaires qu'il y a quelques dizaines d'années, et je crois qu'on consomme globalement 10 fois plus de sucre qu'il y a quelques dizaines d'années. Donc non, non, heureusement. Enfin, d'une part, on n'est pas fait pour manger autant de sucre. Le sucre est très délétère. Enfin, l'excès de sucre, et on est tous globalement dans nos sociétés en consommation excessive de sucre. C'est globalement délétère pour notre organisme. Et d'autant plus que c'est, enfin, un des problèmes est que le sucre est très addictif. Hein. Certaines études chez l'animal montraient que le pouvoir d'addiction du sucre est comparable, voire même supérieur à celui de la cocaïne. Donc c'est vraiment voilà, donc c'est malheureusement on n'y est pas pour grand-chose. On est tous susceptibles à être avoir cette addiction et ces besoins compulsifs de manger du sucre, mais il faut essayer de trouver trouver des moyens de voilà, d'essayer d'échapper, de manger le moins possible quand même de sucre, parce que même en faisant des efforts, on est quand même, on en mange quand même trop.
Oui, alors j'ai vu un documentaire l'autre jour, alors lui sur Amazon, je mettrai le lien parce que je l'ai retrouvé sur le cerveau et qui montrait d'ailleurs, il montrait les souris qui étaient addictes au sucre et pas à la cocaïne. C'est alors énorme, hein, comme on voit qu'elle va chercher dans la pipette qui est pleine de sucre et qui expliquait aussi que les matières grasses, plus on mange gras et plus on a envie de manger gras. Donc c'est vraiment un truc une fois qu'on est tombé dedans. Moi je disais, je me suis déshabitué du sucre quand j'ai perdu du poids et je disais en plaisantant au départ, mais en fait je me rends compte que c'est même plus une plaisanterie parce que c'est vraiment la réalité. Et le gras aussi a vraiment cet effet-là où il montrait que même on devenait plus sensible à la publicité en fait. Manger trop de sucre, manger trop de gras. Déjà dès qu'on voit une pub pour du gras, tout d'un coup on a plus envie de l'acheter. C'est là où je me suis rappelé des pubs, tu sais, avec les grosses parts de frites, là il n'y a plus que ça maintenant dans les trucs. Je comprends la logique des choses, mais c'est dingue en fait.
Oui, c'est dingue et on en revient, bah là, tu soulèves le problème de la publicité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ça malheureusement pour manger mal dans notre société et que en dessous de ces bandeaux publicitaires, ils ont beau marquer manger sain, équilibré, des fruits et des légumes, mais ils font de la pub pour des choses qui n'en sont pas pour la plupart du temps et donc il est là un peu là le problème. Il faudrait vraiment qu'on ait plus de pubs sur le mieux manger, sur le manger sain, naturel, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle va passer par, enfin, ça va être nous individuellement, il va pas falloir attendre qu'on ait ces publicités à la télé ou à la radio, hein. Il va falloir qu'on prenne en main effectivement notre santé et ça passe par manger plus sain, plus naturel. Et voilà.
Avant de venir sur les aliments, j'ai quand même une question. Tu sais, on parle beaucoup de la vitamine D, on supplémente les gamins en vitamine D, les personnes âgées, etc. De manière obligatoire, hein, jusqu'à un certain âge. Même l'autre jour, la pédiatre nous disait qu'ils avaient allongé l'âge pour les enfants. Tu penses qu'il faudrait, sur les probiotiques, ça devienne quelque chose, on dit, ça devienne plus systématique, même hors traitement antibiotique, etc.
Ouais, c'est un peu. Je pense qu'on peut pas faire la comparaison. Effectivement, la vitamine D, on est à, je crois, à 80% en déficit de vitamine D. La vitamine D contribue à tout un tas de fonctions essentielles de notre organisme. Et quand on en manque, il faut supplémenter. Et de nombreuses études montrent que ça diminue énormément de risques. Donc ça, c'est. S'il y a des recommandations, c'est pas pour rien. Les probiotiques, c'est un peu plus compliqué parce que dans les probiotiques, il y en a des centaines et tout simplement parce qu'en fait, il y a des dizaines, voire des centaines de bactéries différentes qu'on peut trouver à des dosages différents, etc. Et que potentiellement, bah, elles n'ont pas toutes le même bénéfice sur notre santé. Et donc, ce qu'on va pouvoir dire d'un probiotique qui a une bactérie ne sera pas du tout reproductible par rapport à une autre bactérie ou à une association de plusieurs bactéries ou de levures ou autre. Et donc là, on est très loin d'avoir des recommandations sur il faut proposer des probiotiques à tout le monde. Donc, je pense que il faut surtout, je pense, en association de conseils comme bah, bon, la supplémentation vitamine D, le reste, ça doit être revenir sur des conseils de mode de vie, de bon sens, d'alimentation. Et je pense que les probiotiques sont là pour combler un petit peu le déficit par moment ou répondre à une problématique particulière. Mais pour le maintien en bonne santé, je pense qu'il vaut mieux avec voilà, un bon mode de vie, une bonne alimentation, essayer de conserver un bon microbiote.
Bon, dans ton livre, tu as le chapitre 6 sur les biotiques. Parce que là, on a parlé de probiotiques. Il faudrait parler de prébiotiques et de symbiotiques. Alors là, c'est intéressant. Est-ce que tu arrives à résumer? Bien sûr, tu arrives à résumer ça en quelques mots, mais pour resituer un petit peu les choses.
Il y a même les postbiotiques. Alors les prébiotiques, c'est globalement de la nourriture pour nos micro-organismes. C'est-à-dire qu'on ne va pas consommer des bactéries, des levures, des micro-organismes, on va consommer leur nourriture. Et globalement, c'est qu'est-ce qui consomme le plus, enfin, qu'est-ce que consomment le plus nos bactéries intestinales? C'est globalement les fibres qu'on va retrouver dans l'alimentation. C'est en gros des polysaccharides, des sucres complexes, du coup, qui ne seront pas digérés par notre organisme humain, qui vont arriver tel quel dans notre organisme, qui vont être digérés par nos bactéries intestinales, qui donc vont s'en nourrir et en échange vont produire des petites molécules et vont faire fonctionner notre organisme. Ça, c'est pour les prébiotiques. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants. Donc, c'est des bactéries, des levures, des associations de bactéries qu'on va prendre pendant un certain temps pour, bah, par exemple, on a parlé des antibiotiques, ça peut être pour soulager des troubles digestifs, ballonnements, problèmes de transit, etc. Et on peut également en trouver dans l'alimentation, et c'est le cas notamment des aliments fermentés. C'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas encore parlé, mais les aliments fermentés sont en quelque sorte des probiotiques naturels. Alors, pour parler de prébiotiques, pour parler de probiotiques dans la définition en théorie, il faut qu'il y ait eu un bénéfice sur la santé de celui qui en consomme qui a été démontré. Donc, c'est pas
D'accord.
forcément le cas, par exemple, de la choucroute ou des cornichons, etc. Mais globalement, bah, quand on mange de la choucroute, quand on mange des yaourts, par exemple, quand on les fait chez soi, eh ben, on va consommer des micro-organismes, des bactéries qui vont potentiellement être bénéfiques pour notre santé. C'est le cas également du kéfir de lait, etc., du kéfir de fruits. Ensuite, les symbiotiques, eh ben, en fait, c'est une association des deux, c'est-à-dire qu'on va retrouver, alors, en général, c'est industriel, hein, dans une gélule, on va retrouver potentiellement des micro-organismes et de la nourriture pour les micro-organismes. Et il y a même les postbiotiques qui sont en quelque sorte des probiotiques, mais qui ne seront plus vivants. Ça va être par exemple des bactéries qui vont être inactivées, ou en tout cas qui seront plus vivantes, ou alors des morceaux de bactéries qui vont potentiellement avoir également une action bénéfique pour la santé.
On va donner, alors dans ton livre, hein, tu as une liste d'aliments riches en fibres, à effet prébiotique, pardon, j'ai failli pas le dire. Donc il y a pas mal de légumes, hein, quand même. Il y a des catégories de légumes plus que d'autres, on pourrait dire, ou pas?
Oui, alors bah y a, alors je pense que au-delà des je pense qu'il faut faire passer les gros messages. Il y a globalement les fruits, les légumes. Alors dans les légumes, bien sûr, tout ce qui va être artichaut, endive, asperge, les choux, tout ça, bien sûr, c'est très très riche en probiotiques, très riche en fibres et donc à effet prébiotique. Mais il y a également des choses qu'on a perdu l'habitude de manger, c'est les légumineuses. Nous, on a eu l'habitude de manger un peu trop de viande accompagnée de pâtes, de riz, etc., avec parfois un peu de légumes. Et sauf qu'en fait, les légumineuses, tout ce qui est haricots secs, pois chiches, lentilles corail, sont vraiment très riches en fibres. Et moi, ce que je conseille à mes patients qui mangent souvent trop de riz et trop de pâtes, c'est de temps en temps de remplacer le riz des pâtes par ces légumineuses. Et de prendre un peu moins de riz, un peu moins de pâtes, mais plutôt des pâtes et du riz complet. Ou là, qui seront plus riches en fibres pour le coup, parce que ben, moins transformés, parce qu'on va avoir gardé voilà ce qui va servir de fibres et qui va aller nourrir nos bonnes bactéries.
Bon, c'est là où on arrive au fameux dessin avec les proutes. Rappelons-le quand même, ceux qui n'en ont pas trop l'habitude de manger certains de ces aliments-là, il faut peut-être pas y aller trop d'un coup non plus, quoi.
Exactement, parce qu'en fait, les fibres vont être métabolisées, transformées en gros par nos bactéries intestinales, qui vont produire des petites molécules bénéfiques très importantes à notre organisme, mais également des gaz, de l'hydrogène, du méthane par exemple. Et en fait, ben, si on n'est pas habitué ou si on est un peu sensible aux gaz et notamment à la distension abdominale, ben, on peut être très vite gêné. Et donc, ce qui est recommandé, c'est d'augmenter progressivement la consommation de fibres, hein, de pas passer de je mange pas de fibres à je vais manger des lentilles midi et soir, artichauts, choucroute tout le temps, etc. Donc, voilà, d'y aller progressivement. De toute façon, tout changement du mode de vie doit se faire de façon progressive et pas totalement drastique, hein.
Sur les questions des aliments, tu sais, tu disais par exemple la choucroute, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une différence entre de la choucroute, tu sais, dans le commerce, des fois, on en trouve des pasteurisés, certains aliments, enfin, tu vois, entre du, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, pour le coup, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Il faudrait demander à des nutritionnistes. Mais globalement, dans la choucroute même industrielle, on est censé retrouver des micro-organismes. Après, c'est là où on ne peut pas parler de probiotiques parce que dans les probiotiques, on doit avoir les micro-organismes qui sont clairement définis, caractérisés. On sait qu'on doit avoir tant de telles bactéries, tant de telles levures, etc. Et que dans les produits qu'on achète dans le commerce ou dans les yaourts qu'on fait à la maison, on est incapable de savoir exactement quelles bactéries il y a et en quelle quantité.
Il y a des, tu dirais, il y a des produits. Bon, là, on a parlé des légumineuses, etc. Il y a d'autres. On a parlé des légumes, des fruits, légumineuses. Il y a d'autres trucs. Tu dis, faut vraiment, vous pouvez aller en consommer. Ça va faire du bien à votre microbiote, etc. Tu vois, un truc. Alors, je dis pas des trucs magiques, mais un peu, tu vois.
Non, alors, franchement, pour pas avoir de recette magique, l'idée, c'est quand on veut prendre soin de notre microbiote avec l'alimentation, Déjà, on enlève ce qui va être délétère. Donc, la première chose à faire, ça va être ça. Plutôt que d'enrichir, ça va être déjà d'enlever l'excès de sucre, d'enlever les aliments trop transformés, de prendre l'habitude de regarder derrière les produits sur l'étiquette, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, et essayer de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible et si possible qu'on sache exactement ce qu'on mange. Donc, la première chose, ça va être d'enlever ça. Et ensuite, bah, ça va être de rajouter un petit peu d'aliments fermentés. Alors, ça peut être, on peut faire ses propres légumes lactofermentés, ça peut être. Je parlais du kéfir de lait, kéfir de fruits, du kombucha. Ça peut être faire ses propres yaourts. Le fromage, c'est également une sorte de probiotique naturel. Donc, ça va être de manger des aliments fermentés, de manger des fibres qui vont avoir cet effet prébiotique, dont fruits, légumes et surtout les légumineuses, parce qu'on n'en mange pas assez. Tout ce qui va être des graines. Graines de chia, graines de lin, bon, tout un tas de toutes les graines vont également être source de fibres, mais pas seulement. C'est riche en fer, en oméga-3, en tout un tas de nutriments qui seront bénéfiques pour l'organisme. Les légumes racines, voilà, ça peut être bon, la chicorée, ça peut être la patate douce. Et aussi une petite astuce, par exemple, sur la pomme de terre qui est très riche en amidon, eh ben, si on laisse refroidir la pomme de terre et qu'on la mange en salade, par exemple, l'amidon va devenir résistant, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de mal, nous, à le digérer. Ça va engendrer beaucoup moins d'énergie et de calories. Et pour le coup, ça va aller nourrir les bactéries intestinales. Donc, c'est une petite astuce, globalement, pour faire d'un aliment potentiellement mauvais si on en mange trop et en fonction de si on le fait frire ou autre, ben voilà, on laisse refroidir, on mange en salade et c'est bénéfique pour la santé.
Ouais, alors là, tu es en train de poser un dilemme aux sportifs parce que eux, justement, des fois, ils recherchent le côté nutritif, calories, etc. Tu sais, il y a cette balance en fait, mais c'est la
Mais
richesse de
bon, là,
l'alimentation.
et puis les sportifs sont souvent suivis d'un point de vue nutritionnel, diététique, et donc c'est là où moi, voilà, mais je ne suis pas un nutritionniste, tout ça, et je pense qu'après, quand la condition physique fait qu'elle justifie d'un accompagnement, effectivement, il ne faut pas hésiter à être accompagné par des gens dont c'est le métier de savoir ce qu'il faut que vous mettiez dans votre assiette, en quelle quantité, et voilà, pour garder certaines calories, parce qu'on n'a pas tous à manger le même niveau de calories. Hein. C'est sûr que quelqu'un qui va passer 8 heures sur sa chaise de bureau devant un ordinateur, bien sûr, n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui va courir 2 heures par jour ou avoir d'autres activités physiques importantes.
Voilà, mais c'est important de le préciser, c'est vrai, parce que quand on a parlé de l'épuisement, d'aménorrhée, de fait que certaines personnes n'arrivent pas assez à manger, c'est vrai qu'il y a cet équilibre-là qui est à trouver. Bon, les fibres n'ont pas toujours bonne presse hein, chez les sportifs. J'ai fait des sujets quand même sur mon compte Instagram et puis dans un autre podcast, dans Kilomètre 42, on a parlé des problèmes intestinaux, tu sais, sur comment les prévenir quand on va courir, éviter bah, justement ces fameux phénomènes où il faut s'arrêter derrière un arbre, etc. Et c'est vrai que les fibres, on a tendance à dire, on va un peu les éviter, on va un peu s'en méfier. Il y a une question que je voulais te poser aussi sur cette histoire-là, c'était, est-ce qu'il y a une différence entre le manger cru et manger cuit? Tu vois, entre un, je sais pas, bon, la salade, moi je la mange pas cuite, mais je sais pas, entre manger un chou-fleur, tu vois, le manger en taboulé, alors qu'il serait pas cru, qu'il serait cru, et le manger cuit. Est-ce qu'il y aura une différence?
Oui, bien sûr qu'il y a une différence. Après, là encore, je serais pas le plus compétent pour t'expliquer ce que ça modifie. Mais forcément, on va garder le même aliment. On va le modifier. On va le modifier avec de la cuisson. On va modifier avec d'autres choses. Et forcément, bah, ce qui va en sortir quand on va le digérer, etc., sera pas forcément la même chose. Donc, oui, il y a des différences. Et là encore, je pense que le mieux, c'est de faire conseiller par les nutritionnistes. Après, je pense que un sportif, il a. Alors déjà. On n'est pas tous égaux sur la tolérance, par exemple, telle alimentation aux fibres, etc. Il y a des gens qui pourront manger ce qu'ils veulent en n'importe quelle quantité, qui seront jamais gênés. Puis il y en a d'autres qui vont manger un demi-plat de lentilles, qui vont se retrouver ballonnés, inconfortables, avec potentiellement des douleurs intestinales. Donc là, c'est clair que moi, je suis là pour donner des conseils généraux et montrer ce que la science a montré. Après, il faut faire en fonction aussi de ce que notre corps permet. Il faut y aller progressivement et pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels.
C'est vrai parce que on en avait parlé avec une nutritionniste notamment, elle disait elle mettait toujours du cru, tu sais, dans l'aliment, mais c'était aussi pour des questions de micronutriments, etc. et
Ouais.
tout. Mais je me dis que c'est comme finalement ces organismes. etc. Le chaud, le froid, ces choses-là, dans la cuisson, ça peut jouer en fait sur ce qui va
Bien
rester
sûr,
finalement.
bien sûr. Certaines, alors là, ça va dépendre aussi des micro-organismes, mais certains ne résistent pas forcément à la cuisson, etc. Et là, bon, effectivement, on parlait en termes de nutriments, de micronutriments. Les aliments crus et les aliments lactofermentés vont être plus riches en micronutriments que des aliments qu'on va faire cuire, ça c'est sûr. Après, c'est pas pour autant que l'aliment qu'on aura fait cuire sera mauvais pour notre santé, etc. Je pense qu'après, il faut manger de tout et varier tout ça.
Tu parlais aussi de faire de son jardin, des choses comme ça. Tu dirais que c'est mieux le bio pour notre microbiote ou...
Bah, carrément, déjà, bah, ce qu'on sait, déjà, l'idée, c'est de savoir, d'essayer le plus possible de savoir ce qu'on mange. Donc, quand ça vient pas de notre jardin, on regarde sur les étiquettes, on essaie de savoir d'où ça vient, etc. Donc, ce qu'on a mis dans le jardin, c'est assez facile de savoir ce qu'on y a mis, de savoir ce qu'on mange. Et en général, dans notre jardin, on n'y met pas trop de pesticides, et donc c'est souvent bio et souvent de meilleure qualité, d'une part nutritionnelle, mais surtout, on va pas avoir ces éléments délétères qu'on retrouve beaucoup, malheureusement, hein, dans les fruits et légumes actuellement, et même parfois dans le bio, on maîtrise pas forcément tout. Ce qu'on a fait pousser dans notre jardin, ça, on le maîtrise, donc je peux que conseiller ça, mais bon, malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un petit potager dans son jardin. Ceux qui ont la possibilité de le faire, je peux que encourager. Voilà, chacun à faire pousser ce qu'il peut faire pousser et se nourrir de ce qu'il a fait pousser.
On va finir sur un dernier pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup qui sont parents quand même, etc., qui se disent, bon, faut quand même préserver leur patrimoine, t'as parlé du sucre, t'as parlé du gras, t'as parlé des légumes. Enfin, des fois, il y a des trucs qui sont compliqués avec les enfants, tu vois. Bon, en ce moment, la liste des aliments que t'as mis qui sont bons en prébiotiques, ma fille ne veut plus en manger en ce moment, alors qu'elle adorait ça. Pour autant, on se dit, faut quand même essayer de le conserver un petit peu, tu vois. Donc, c'est quoi l'astuce? Et on se dit, bon.
Alors déjà, ça dépend des âges, parce que j'ai appris que, par exemple, entre 2 et 3 ans, les enfants pouvaient ne plus avoir envie de manger certains légumes, certaines choses qu'ils mangeaient avant. Et ça, globalement, ça a tendance à revenir après. Il y a une période où ils ont envie de choses assez fades et très classiques. Ça, je pense qu'il faut accepter ça. Et il faut surtout, il faut essayer de promouvoir, il faut essayer de leur mettre le plus de choses possibles dans l'assiette, leur faire goûter énormément de choses. Et moi, j'ai une petite astuce, alors que je fais là, avec mon petit qui a 2 ans, et je parle beaucoup de ces petites bébêtes intestines du ventre, et je lui dis que, bah, par exemple, quand il mange de la betterave ou des carottes ou du brocoli, bah, il va les nourrir ces petites bébêtes rouges, ces petites bébêtes oranges, ces petites bébêtes vertes. Quand il va manger de la banane, il va nourrir ses petites bébêtes jaunes. Et ça, je pense que c'est un petit côté amusant, ludique pour eux. Ça commence à les familiariser avec le microbiote intestinal. Et en même temps, c'est une petite astuce qui peut parfois marcher pour leur faire manger des choses qu'un enfant, en général, parfois pas forcément envie de manger spontanément.
Ça me fait penser parce que je crois ta préface était faite par Harry Sokol. C'est lui qui avait fait des vidéos sur, où il expliquait tout ça avec des trucs, des petits bonhommes là, non? Sur YouTube.
Oui, c'est possible. Oui, il a fait plusieurs vidéos, effectivement. C'est un des pontes du sujet. Hein, donc,
mais
il fait quelques vidéos.
Ouais, il avait fait des vidéos. Il me semble que c'est lui qui a fait des vidéos avec des Lego ou des choses comme ça et sur YouTube. Et j'avais partagé un jour dans une de mes newsletters qui est très lointaine, mais je vais faire exprès de la. Enfin, je la retrouverai bien sûr. Je vais la retrouver qui était très didactique. Il avait fait ça avec ses enfants et tout. Et dans un des documentaires, j'avais vu justement, on le voyait faire ce truc-là. Donc, je trouvais ça intéressant.
Okay.
Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant justement d'arriver à
tu veux dire que c'est pas moi qui ai eu l'idée? Oh là là.
Des petites bébêtes jaunes et tout. Ah, je sais pas. Je me rappelle plus de la vidéo, mais non, mais si je te laisse la paternité de l'idée, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que c'est vrai que ma fille, elle est très curieuse, on lui explique tout. Bon, elle a 5 ans, elle connaît quasiment, enfin, tout le système, elle le connaît de A à Z. Parce que malheureusement, elle a un petit problème de santé là-dessus, donc on lui a tout expliqué. Mais par contre, on n'avait pas pensé aux bébêtes rouges, jaunes, toutes les couleurs, etc., tout ce que ça avait comme impact, etc., tu vois.
Voilà. Bah, écoute, c'est, une petite astuce.
Tu dis que c'est vraiment le futur, tu termines là-dessus et tout. Enfin, je sais que c'est compliqué de se projeter quand même, mais tu vois comment.
Alors, je vais donner un exemple. L'immunothérapie, ça peut être un gros mot pour ceux qui ne sont pas du tout du milieu. Globalement, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner les pronostics de certains cancers. Et maintenant, on peut arriver à quasiment guérir de cancer, même vraiment à guérir de cancer métastatique qu'auparavant on était incapable de guérir. Et l'immunothérapie, en gros, soit on répond pas, il y a rien qui se passe, et quand on répond, on peut guérir de ces cancers-là. Et ce qu'ont montré plusieurs études, il y a notamment l'équipe de l'IGR, de Gustave Roussy, qui travaille beaucoup dessus, c'est qu'en gros, la réponse à l'immunothérapie était en grande partie conditionnée par l'état de notre microbiote intestinal. Et que globalement, d'une part, ça veut dire que l'analyse du microbiote intestinal pourrait prédire de la réponse ou non à ces traitements. Donc, c'est-à-dire, on diagnostique un cancer, on va analyser ton microbiote, et si, en fonction de ton microbiote, on va dire, ah ben là, ça ne sert à rien de mettre ce traitement parce que ça ne marchera pas, on va plutôt mettre un autre traitement. Donc, ça, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines années dans la médecine. Ça va être vraiment majeur, le retentissement, l'impact sur nos patients. Et l'autre chose, ça va être, ben, si jamais on prédit l'absence de réponse à un traitement, et ben, potentiellement, on pourrait moduler le microbiote, rajouter des bonnes bactéries ou transplanter le microbiote de quelqu'un qui a un microbiote favorable à ce traitement-là, qui pourrait engendrer une réponse et faire en sorte que, alors que tu étais censé ne pas répondre au traitement, en changeant le microbiote intestinal, tu vas répondre à l'immunothérapie et donc guérir d'un cancer. Donc ça, c'est un exemple concret qui n'est pas utilisé là en pratique courante dans les hôpitaux tout de suite, mais probablement quelques années. Donc vraiment, là, l'impact, il est majeur. Pour moi, c'est une vraie révolution dans la médecine. De savoir voilà d'utiliser le microbiote intestinal comme outil de prédiction, comme outil de personnalisation de la médecine, de la nutrition. Dans le sport, il est possible que dans quelques années, eh ben un diététicien nutritionniste ne donne pas le même programme alimentaire, le même régime entre guillemets à deux sportifs qui font pourtant la même chose, qui ont la même morphologie, etc., juste parce qu'ils n'ont pas le même microbiote intestinal et qu'ils vont pas métaboliser les aliments de la même manière. Ça, c'est pas à l'heure actuelle, hein. Pour l'instant, ça sert à rien. Si vous êtes sportif, vous allez faire analyser votre microbiote pour être pris en charge différemment. Mais c'est possible que dans quelques années, on y soit.
Tu parles d'analyse du microbiote, ça se fait une analyse du microbiote?
Oui, ça se fait. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est pas forcément standardisé, et donc c'est beaucoup des startups qui sont positionnées là-dessus.
Ouais.
Toutes les startups ne font pas le même genre d'analyse. Et surtout, en fait, au-delà de la fiabilité du résultat, hein, qui peut être bon, hein, certaines startups savent très bien analyser le microbiote, mais c'est derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc moi, je te dis que dans quelques années, on en fera des choses, et clairement, on pourra prendre en charge des patients, des sportifs, etc., de façon personnalisée en fonction de leur microbiote. Voilà, mais c'est pas le cas tout de suite en 2023.
Ouais, ça ressemble presque à du dopage, ce truc-là, à terme, si on pousse un peu le truc. Non, parce que j'avais vu des articles aussi qui disaient que le microbiote, si on influençait dessus, pourrait aider à remettre les gens au sport. Tu parlais tout à l'heure de performance sportive aussi, des études qui sont faites un peu là-dessus, ou en tout cas, on voit passer des articles dans ce sens-là. Pour ça que je dis que si on pousse un peu la logique, on pourrait se dire, est-ce que ceux qui auront des gros moyens pourraient pas aller étudier le microbiote pour dire, bah, nos sportifs, si on leur fait ça, ça et ça et tout, c'est peut-être pas du dopage, mais...
Alors, tout à fait raison, très potent. Et je pense que certaines grosses équipes, comme tu dis, sont déjà là-dessus, hein. Mon avis, effectivement, si certaines équipes qui ont beaucoup de moyens doivent déjà être sur ce genre d'études et essayer de moduler le microbiote intestinal de leurs sportifs et qui pourraient aller vers des meilleures performances, etc. Donc, pour l'instant, on est encore dans le domaine de l'étude, de la recherche. Mais je pense qu'il y en a déjà qui sont là-dessus, effectivement.
Bah écoute, c'est un sujet passionnant. On va suivre ça avec attention. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Alors, je vais rappeler le titre de ton livre. C'est Incroyable Microbiote. On le trouve partout. En plus, c'est une grosse maison d'édition. C'est chez Le Duc. Donc, on le trouve partout, partout, partout. On peut te trouver ailleurs si on veut. Je t'envoie des messages, échanger.
On peut le trouver ben, effectivement chez toutes les librairies, on peut bien sûr le trouver sur les plateformes internet et on commence même à le trouver dans certaines pharmacies, hein. Donc ça peut aider les gens qui sont amenés potentiellement à prendre des probiotiques ou d'autres compléments alimentaires. Ça peut leur apporter voilà, quelques informations, quelques connaissances qui peuvent être utiles à comprendre tout ça.
À la fin, il y a quelques recettes. Oh, il n'y a pas beaucoup de recettes, hein. Choucroute et des choses comme ça, etc. On pourrait avoir une cuisine prébiotique idéale, tu vois,
Oui,
faire une recette là-dessus.
y a déjà des livres là-dessus et c'est potentiellement l'objet de mon prochain livre. Après, à noter que je ferai, si jamais je fais quelque chose là-dessus, hein, sur la partie diététique avec plus de recettes, je me ferai bien sûr aider par quelqu'un dont c'est le métier parce que je ne suis pas moi-même nutritionniste, diététicien, ni chef cuistot.
Eh bien, écoute, moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que c'est un sujet passionnant, franchement, qui était méconnu par plein de gens. Je le dis aussi, on a été démarché par des entreprises, des fameuses startups là, qui veulent vendre des trucs dans tous les sens. Mais moi, je préfère remonter à la source, avoir un chercheur, un scientifique sur le domaine, quelqu'un qui est vraiment aussi, qui connaît vraiment très bien le sujet, comme c'est ton cas. Je mettrai bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode. T'as pas de compte Instagram ou de choses comme ça, ou tu parles de ça?
J'ai un compte Instagram, surtout, je suis surtout actif sur mon compte LinkedIn. Donc, voilà, pour ceux qui ont LinkedIn, vous me trouverez facilement, sur cette plateforme-là.
Eh ben écoute, ça marche, je vais trouver les liens, je mettrai les liens vers le livre, vers tout ça. Je te remercie beaucoup Julien, c'était passionnant de découvrir tout ce monde-là. Le livre, je le redis, est très chouette. Moi j'aime bien les petits dessins, j'aime bien l'humour, j'aime bien la mise en page. C'est pas un truc scientifique pénible quoi pour ceux qui ont peur de ça et tout, c'est vraiment ça se lit très facilement et c'est bourré d'infos. Et puis écoutez, nous on se retrouvera dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous dis pas le sujet, je vous dis pas l'invité parce que j'en sais rien, mais on continuera à parler de tous ces sujets-là et pour bien bouger, pour être en pleine forme, en pleine santé. Manger naturel, c'est notre ici, c'est ça, tu vois. On essaie de manger naturel, on évite l'ultra transformé, on évite trop les sucres, etc. Et je te remercie d'avoir encore fait passer le message, tu vois, à ta manière, avec ton approche et tout à toi. C'était super, super épisode. Merci beaucoup, Julien.
Merci à toi et chouchoutez bien votre microbiote intestinal. Il vous le rendra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.